Bon, alors, de retour avec Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route. Alors, Jean-François, là, on y va avec les essais routiers. On a le temps peut-être pour deux essais routiers avant la pause. Veux-tu commencer avec la nouvelle génération de la BMW X5?
Bien, certainement. Le X5 a été présenté pour la première fois au Québec, là, au dernier salon de l'Auto de Montréal. Finalement, ben, on a mis la main sur cette nouvelle génération. C'est la quatrième génération depuis le lancement de ce véhicule-là. Le X5, hein, c'est un modèle qui est connu. Il fait partie d'une catégorie qui est très, très concurrentielle, je vous dirais. Alors, on a juste à nommer, par exemple, l'Acura MDX, le Audi Q7, puis il y a le nouveau Q8 qui vient de rentrer en fonction. Parce que le X5, là, il joue en même temps sur deux tableaux. À cause de ses dimensions, il y a une possibilité d'avoir une troisième banquette à l'arrière. Mais des amateurs de BMW se plaignaient, Jacques, depuis des années, que le X5, c'est bien beau que c'est un 7 passagers, mais la banquette arrière était trop petite. Mm-hmm. Donc, là, ils ont dévoilé cette année le X7. Donc, le X5, là, il va peut-être avoir... davantage sportif, puis il va davantage rivaliser avec des véhicules à 5 passagers. Je pense notamment au Jeep Grand Cherokee. Je pense aussi au Range Rover Sport, malgré que c'est un 7 passagers, mais qui quand même, la troisième banquette est vraiment symbolique. On pense aussi au Porsche Cayenne, au Maserati Levent, Levente plutôt, et vous avez le Lexus RX. Puis il faut pas oublier non plus le nouveau Audi Q8. Cela dit, ben là pour l'instant, vous avez deux motorisations. Vous avez le 6 en ligne, le fameux moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres turbo de BMW qui a été légèrement retouché, ce qui fait en sorte que la puissance augmente de 300 à 335 chevaux. Ça, c'est la version X-Drive 40i. Moi, la version qu'on a essayé, Jacques, c'est la version 50i, X-Drive 50i. Donc, c'est un V8 biturbo, 4,4 litres. Et la puissance augmente à 456 chevaux. Un couple de 479 livres-pieds, donc c'est assez impressionnant. Il y a aussi, par contre, il y en a qui disaient que le diesel ne serait pas au rendez-vous. Avant de rentrer en onde, j'ai vérifié, et sur le site de BMW Canada, bmw.ca, il y a le prix du X5 avec le moteur diesel. Donc, il y a forcément un moteur diesel en 2019. C'est 100 lignes, 3 litres, 255 chevaux et 413 livres-pieds de couple. Transmission automatique à 8 rapports dans les 3 cas. Par rapport à la génération précédente, moi, je vous dirais que le véhicule est plus sportif au niveau du design. La fameuse calandre à l'avant, là, qui c'est comme... Il y a comme deux bouches distinctes, là, est beaucoup plus volumineuse qu'avant. C'est plus large aussi au niveau de la calandre. Les phares aussi ont été très travaillés. Tu as même une option avec des pneus, des phares au laser. Puis c'est d'une petite couleur bleutée. Le véhicule aussi paraît plus bas que la génération précédente. Pourquoi? Bien, vous avez une suspension pneumatique. Donc, quand on veut embarquer dans le véhicule, il est possible, par rapport à la hauteur normale, on peut rabaisser la hauteur de 4 cm. Puis il y a même une manette dans le coffre arrière. Genre, admettons, tu veux embarquer quelque chose de lourd, quelque chose de volumineux, puis tu trouves que le véhicule est trop haut. Mais là, tu as une espèce de petit bouton, puis tu peux rabaisser la hauteur de la suspension de 4 cm. Donc, ça va aider là, les gens à pouvoir embarquer des gros objets plus facilement dans le coffre arrière. Puis, il y a aussi une possibilité pour faire du hors-route. On peut augmenter la suspension par rapport à la hauteur normale de 4 cm. Donc, ça varie de 8 cm du plus bas au plus haut. Tableau de bord aussi qui a été retouché. Vous avez au niveau central, au niveau du tableau de bord, une espèce de grand écran tactile de 12,3 pouces. Aussi, au niveau de l'instrumentation, ça, c'est-à-dire où ce que vous avez les cadrans habituels pour l'indicateur de vitesse, le contour, etc. Mais encore une fois, là, c'est un écran qui est incrusté dans le tableau de bord, derrière le volant, puis c'est la même grandeur, 12 pouces. Et puis même, vous avez le système de navigation qui se retrouve derrière le volant. Ça fait très sobre. C'est sportif au niveau de l'ambiance intérieure. C'est chic à la fois, mais on s'entend, ça ressemble davantage à des produits Audi qu'à Mercedes. Mercedes, je te dirais qu'il y a encore une coche un petit peu plus luxueuse. C'est moins sportif au niveau de l'ambiance. mais c'est plus luxueux chez Mercedes, mais il y en a qui vont préférer davantage la sobriété là, de BMW. Les places avant sont légèrement plus grandes. À l'arrière, un petit peu plus d'espace aussi pour les jambes des passagers. Mais ce qui retient l'attention, c'est encore une fois, c'est la conduite de ce véhicule-là. C'est extrêmement silencieux. La sonorité aussi du moteur V8, du système d'échappement, c'est très sportif. Ça avait une bonne tenue de route. Aujourd'hui, par exemple, on s'entend que les routes étaient très glacées. Le véhicule était chaussé de pneus Pirelli Scorpion. C'est pas mes pneus favoris. Mais à cause de l'efficacité du système X-Drive, là, du rouage intégral, j'ai été quand même surpris là, des distances de freinage et aussi là, de la motricité. Que ce soit là, quand on a un départ ou encore dans les courbes, le véhicule est très maniable. Je te dirais, par contre, il y a une espèce de levier de vitesse encore qui ressemble à... le levier de vitesse ressemble à une espèce de gros diamant. Ça fait peut-être un peu cucu, là. Mais ce que je retiens, c'est que la manipulation de ce levier de vitesse-là, c'est encore un petit peu difficile. Il faut s'habituer. C'est toujours une question de temps. Mais je te dirais que ça pourrait être plus simple là, que ça. Et on retrouve aussi toujours la fameuse molette au niveau de la console centrale pour faire fonctionner le système de le système de multimédia et d'autres. Et d'autres commandes, là.
Et d'autres gugus.
Et d'autres gugus. Mais tu vois, il est tellement mal placé. Ce soir, par exemple, je discutais avec des gens en m'emmenant à la station, puis je m'étais acheté un bon café dans un service à l'auto. Puis j'ai coupé la communication trois fois. Seulement, en allant déposer mon café dans le porte-gobelet, je frôlais cette molette-là, puis ça coupait la communication.
Ah bon?
Donc, je pense qu'il va falloir qu'ils travaillent là-dessus, parce que... ça peut être désagréable. Mm-hmm. La molette est mal située. Que ce soit moi ou un autre, là, ça va être avoir la même...
Le
même problème.
On s'entend que c'est une BMW quand même. Alors, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'échelle de prix.
Oui.
C'est impressionnant.
C'est sûr que c'est impressionnant. Mais vous avez quand même...
Ça fait des beaux paiements.
Ça fait des gros paiements. Mais étant donné que c'est un véhicule qui, habituellement, la valeur résiduelle est assez élevée, si vous louez, mettons, pour 2 ans ou 3 ans...
Ça doit être cher, 2 ans.
Bien, des fois, c'est surprenant parce que le fait que tu loues seulement 2 ans puis tu te limites à un kilométrage X, quand tu rapportes... Eux autres, pour BMW, après ça, eux autres, c'est plus facile de revendre le véhicule à bon prix.
Mm-hmm.
Donc, des fois, c'est avantageux là, de louer sur une courte période.
Donc, on s'entend que c'est à partir de 71 500 beaux dollars. Ça peut monter aussi assez rapidement.
Oui, puis par rapport à l'an dernier, tu vois, là, la facture est d'environ 1500 $ de plus que le modèle 2018. Mm. Mais si on regarde la catégorie, là, c'est sûr qu'il est plus cher que des modèles japonais, plus cher que des modèles américains. Je pense au Jeep Grand Cherokee, je pense au Buick Enclave. Mais du côté japonais, je pense à l'Acura MDX, qui est moins cher, l'Infiniti QX60, Lexus RX. Mais vous n'aurez pas la même agrément de conduite avec ces véhicules-là qu'avec le X5. Le X5, là, je te dirais, ça se compare facilement à un Porsche Cayenne au niveau de l'agrément de conduite.
Parfait. Alors, on s'entend qu'on est quand même dans... C'est un très bon véhicule.
C'est un bon véhicule, mais j'avoue que c'est dispendieux.
Oui. Au niveau de la fiabilité, en as-tu parlé?
BMW, je te dirais, ça se situe légèrement au-dessus de la moyenne.
Mm-hmm. Oui.
Ce qui est intéressant à BMW aussi, là, par rapport aux autres marques de luxe allemandes notamment, puis anglaises, britanniques, là, on pense à Land Rover. Je pense pas me tromper, là. Le service... Et les entretiens sont inclus pendant la garantie.
Parfait.
De 4 ans, 80 000 km, ce qui n'est pas le cas, notamment chez Mercedes.
Excellent. Donc, voilà pour la BMW X5. Il reste un peu de temps, mais pas longtemps, 2 minutes avant la pause. Peut-être un mot sur la Mini Countryman John Cooper Works.
Oui, on reste dans la même famille, hein, parce qu'on sait que Mini appartient à BMW. Le John Cooper, là, c'est une version spéciale qu'on a essayée, la John Cooper Works Midnight Black Edition. Donc, c'est au niveau de la peinture, c'est au niveau aussi des jantes, le design des jantes, au niveau aussi de la finition intérieure. Et je peux vous dire aussi que j'ai essayé ce véhicule-là dans les tempêtes de neige au cours des dernières semaines. Et c'est un véhicule qui est très efficace au niveau du rouage intégral. On s'entend que c'est la même plateforme, la même autorisation, ou presque, en tout cas, pratiquement. En tout cas, on parle du rouage intégral, on ne parle pas des motorisations, mais ça ressemble beaucoup au BMW X1 et au X2. Donc, à la base, c'est une traction avant avec un rouage intégral arrière qui pourrait être dit réactif, là, mais il est souvent prise constante là, selon les conditions routières. Bon, cela dit, c'est très agréable à conduire. C'est un véhicule qui est sportif. Dans la catégorie, je vous dirais, moi, si vous hésitez entre un Mini Countryman puis un X1, bien, je vous dirais, le X1, ça va être plus confortable, plus silencieux, mais vous allez avoir plus d'agrément de conduite, plus de fun en bon québécois avec le Mini Countryman. Très maniable. Au niveau aussi des portières avant, par contre, tu sais, des fois, on parle, c'est-tu facile de s'installer au volant puis de ressortir de l'habitacle? C'est sûr que les portières sont un petit peu étroites, mais cela dit...
Il reste pas grand temps. C'est pour ça que tu me parles un peu de l'intérieur, parce que tu as mis des photos sur mon mur Facebook. À l'intérieur, je vois qu'il y a comme... c'est en bleu, c'est noir et bleu. Je constate également qu'il y a une manette, un peu comme la BMW, mais j'imagine qu'elle n'est pas très dérangeante, celle-là. Mais c'est quoi le bleu? Ça bouge, ça? Ça change de couleur?
On peut choisir les couleurs. Et puis, les Mini, comme la Mini originale, tu as une espèce de gros cadran central. Puis tout le centre multimédia est là. Donc, tu as une petite molette à la console centrale. Ben, mettons, tu veux aller sur les fonctions téléphoniques. Là, ça change de couleur. Puis là, ben, t'es dans...
C'est pas dérangeant, ça, non?
Bon, non. C'est un gadget. Ça fait un peu disco, là.
Un peu, ouais.
Mais c'est un des belles intérieurs, là.
Honnêtement, oui. Puis j'aime bien le sigle Mini aussi.
Oui.
Honnêtement.
C'est juste que la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous.
Ah, c'est ça. Ben, on pourra y revenir parce qu'on manque de temps, malheureusement. La pause vient justement d'arriver. Si vous avez des questions pour Jean-François, parce que vous avez décidé de vendre ou d'acheter un véhicule, ben Jean-François sera avec vous après la pause pour répondre à vos questions. Bon, on va revenir la semaine prochaine sur la Mini Countryman. Et on avait promis également de parler aussi de la fusion énergie. On pourra y revenir éventuellement. Alors, appelez-nous, appelez Jean-François, il sera avec vous après la pause.